Chapitre 9. Les amis. Michel-Ange, auprès de la marquise, mettait tout le feu de son amour dans son imagination. Auprès des autres femmes, pourquoi ne pas le dire? Le poète en lui s'effaçait et il ne restait plus que l'homme, ardent de désir, sournois souvent et farouche dans sa passion, qu'il n'osait avouer, hélas, de crainte que la femme, riche de sa beauté et de sa jeunesse, n'eût la cruauté de le repousser ou de le bafouer sans pitié. Quelquefois, le tourment du désir le dévorait si profond dans la chair qu'il oubliait l'indignité, la laideur de son physique et de son âge, et que, de ses âpres prières, il poursuivait obstinément la créature trop charmante dont il se maudissait lui-même de voir la grâce et de sentir avec son cœur le parfum si troublant. Ainsi, pendant ses relations familières mais chastes avec Vittoria Colonna, entre 1535 et 1546, il aima une femme cruelle et belle, brillante sur la terre comme un astre, et qui fut de ses ennemis le plus méchant. Il l'aima d'une ferveur si constante et si folle que, pour obtenir d'elle des caresses, il eut renoncé à sa religion et vendu son âme au diable parmi les bûchers de l'enfer. Elle s'amusait de lui, taquine et méprisante, lui faisant des promesses qu'elle reniait aussitôt, avec un rire d'insulte. Et pour exciter la frénésie sensuelle du grand artiste, pour lui infliger les supplices variés de la vaine attente, des espérances chaque jour renouvelées et déçues, elle se montrait en coquetterie avec d'autres hommes. Un jour, il crut habilement l'avoir surprise par mégarde et la tenir par la main, comme une enfant docile. Par une pirouette, en le plaisantant de sa déconvenue, elle se déroba. Alors, le vin de son amour s'aigrit. Il détesta la femme belle et sotte, qui ne comprenait pas la splendeur de l'intelligence, la noblesse de la gloire. Il la poursuivit de sa rancune, de sa haine. Et dans des vers aussi stridents que des coups de fouet sur une bête, il avoua d'un cœur ingénu au démon qui, pour déshonorer la femme, ont le pouvoir de la dépouiller de ses charmes physiques et de l'enlaidir. « Amour, s'écrie-t-il, pourquoi tolères-tu que la beauté refuse ta précieuse courtoisie à qui t'apprécie et te désire, et qu'elle l'accorde, au contraire, à des êtres stupides ? Ah, fais en sorte que bientôt elle aime, elle aussi, avec son cœur, mais qu'elle devienne si laide de son corps que moi je ne puisse pas l'aimer, tandis qu'elle m'aimera. » Si nulle femme ne répondit à l'appel de ses sens et de son cœur, il trouva du moins parmi les hommes l'amitié la plus douce. Malgré la violence de son caractère, malgré son goût presque maladif de la solitude, il se lia sincèrement avec les hommes les plus distingués de Florence, de Rome, des provinces voisines. Il vécut, en dépit de quelques querelles, avec 7 papes dans les plus familières relations. Les cardinaux Pole, Bembo, Contarini, Hippolyte de Médicis demeurèrent fidèlement ses amis. On sait, par le témoignage de Vasari, de quelle bonté agissante il entoura ses élèves, Sébastien del Piombo, Daniel de Voltaire, Le Rosso, Le Pontormo. Non seulement il les soutenait de ses conseils et de son intelligence, mais encore il leur confiait certaines de ses œuvres à terminer, leur donnait des projets de tableaux ou de monuments. Sur certains hommes, soit parce qu'ils étaient très beaux, soit parce qu'il les voyait très nobles d'esprit, il reporta cet idéal d'amour, cette fièvre d'adoration qu'il n'avait pu donner à une femme. Sans honte, dans l'ivresse de sa pensée, il se prosternait à leurs pieds, et cette humiliation volontaire du grand homme était d'autant plus étrange que souvent l'idole au beau visage avait une âme vulgaire et méprisable. Il aima aussi Gherardo Perini, celui-même que l'Arétin, dans une de ses attaques contre Michel-Ange, visa spécialement, Pebo di Poggio, un drôle qui, aux hommages absurdes du grand artiste, répondait par des demandes d'argent, Cecchino del Bracci, fils d'un banni florentin, mort prématurément à Rome en 1544. Michel-Ange écrivit, en mémoire de lui, 48 épigrammes funéraires d'un idéalisme idolâtre, si l'on peut dire, et dont quelques-unes sont d'une sublime beauté. Ce sont peut-être les poésies les plus sombres qu'il ait jamais écrites. le délire s'emparait quelquefois du cœur de Michel-Ange comme de son génie. Du moins, en Tommaso dai Cavaliere, ce qui le séduisit si intensément, ce fut la beauté morale. Vasari raconte qu'il aimait par-dessus tous les autres ce gentilhomme romain que l'art exaltait. Il fit sur un carton son portrait, grandeur nature, le seul qu'il ait dessiné. Car il lui répugnait de copier une personne vivante si elle n'était pas d'une perfection incomparable. Comme une maîtresse, il assaillait de lettres, de poésie, il lui offrait des présents. « Ce m'est une douleur infinie, lui écrivait-il, de ne pouvoir aussi vous donner mon passé pour pouvoir plus longtemps vous servir. Mon avenir ne peut être que court. Je suis trop vieux. Mais je parle d'une façon que vous trouverez présomptueuse, moi qui suis infiniment au-dessous de vous. Votre nom remplit mon corps et mon âme d'une telle tendresse que, pendant les heures où je pense à vous, je ne sens ni souffrance ni crainte de la mort. Mon âme est entre vos mains. Si je cessais de penser à vous, je crois que je tomberais mort. » Il laissa entre les mains de Cavaliere des dessins étonnants, des têtes merveilleuses au crayon rouge et noir qu'il avait fait dans l'intention de lui apprendre à dessiner. Il dessina pour lui un Ganymède porté au ciel par l'aigle de Zeus, un Tityos avec le vautour se nourrissant de son cœur, la chute de Phaéton dans le pot avec le char du soleil et une bacchanale d'enfant. Par un de ces sonnets que, dans les illusions de sa ferveur, il lui adressa et dont Schaeffer a dit que c'était la plus belle poésie lyrique de l'Italie au XVIe siècle, Michel-Ange proclame « Avec vos beaux yeux, je vois une douce lumière que mes yeux aveugles ne peuvent plus voir. Vos pieds m'aident à porter un fardeau que mes pieds fatigués ne soutiennent plus qu'avec peine. Par votre esprit, je me sens élevé jusqu'au ciel. » En votre volonté, je mets toute ma volonté. Mes pensées se forment dans votre cœur et mes paroles dans votre souffle. Abandonné à moi-même, je suis pareil à la lune qu'on ne peut pas voir dans le ciel quand le soleil ne l'éclaire pas. Michel-Ange éprouvait tout de même un scrupule, une sorte de regret, lorsque la raison en lui se reposait avec sagesse. Et il s'excusait, modeste et mélancolique, de se laisser aller trop facilement au cours de son désir et de son inquiétude. « Pardonne et comprends mon amour, suppliait-il Cavaliere. Je ne m'adresse dans mes louanges qu'à ce qu'il y a de meilleur en toi. Ce que j'apprends dans ton beau visage ne peut être compris des hommes ordinaires. Qui veut le comprendre doit d'abord mourir aux choses vulgaires du monde. » Le gentilhomme Cavaliere aima Michel-Ange avec une gratitude filiale, avec respect. Il ne se départit jamais, dans ses confidences, de la réserve la plus digne. « J'ai reçu de vous, lui écrivit-il de Rome en 1532, une lettre qui m'est d'autant plus précieuse que je ne pouvais pas l'espérer. Que suis-je auprès d'un homme tel que vous ? Quant à vos éloges, je vous assure que je n'estimais pas mes œuvres susceptibles de m'attirer la sympathie d'un artiste de génie. Je ne suis qu'un jeune ignorant qui débute à peine. Pourtant, je ne puis pas croire que vous exagériez à plaisir vos éloges. Je suis donc certain que votre affection pour moi n'a d'autre cause que l'amour d'un homme de votre caractère, qui est la personnification de l'art, doit nécessairement avoir pour ceux qui se consacrent à l'art avec tout leur cœur. Je suis de cela. Je vous rends votre affection pleinement. Jamais je n'ai désiré une amitié plus que la vôtre. » Cavaliere, par sa droiture et par son dévouement, mérita la confiance de Michel-Ange. Par son intelligence attentive, par sa fidélité, il acquit sur lui une réelle influence. Il fut le seul à en être écouté. Ce fut lui qui décida Michel-Ange à terminer le modèle en bois de la coupole de Saint-Pierre. Ce fut lui qui conserva ses plans pour la construction du Capitole et qui travailla à les réaliser. Ce fut lui, enfin, qui, après sa mort, veilla à l'exécution de ses volontés. Michel-Ange chérit les simples, les humbles, avec une prédilection particulière où ne se mêlait aucune lueur de rêve, et que ne troublait point sa fièvre de poésie. Leur naïveté lui plaisait. Leurs habitudes familières, leur élan de sincérité, le reposé de la politesse, des affectations et de la superbe des grands, lesquels, sous leurs efforts de sentir la beauté de ses œuvres, cachaient mal leur ignorance ou leur faiblesse. Il traita son domestique Urbino comme un ami. Il corrigeait gravement, sans le blesser de la moindre ironie, les informes ébauches de Topoline, son marbrier. Au Méniguel, peintre médiocre du Val d'Arno et personnage très amusant, qui venait de temps en temps le prier de lui dessiner un Saint-Roch ou un Saint-Antoine, d'après lequel il peignait un tableau pour les Campagnards, Michel-Ange n'opposa jamais le moindre refus. Il composa, entre autres choses, pour le Méniguel, le modèle d'un Christ en croix, avec un creux pour mouler des épreuves en carton, que le pauvre peintre allait vendre dans les campagnes, à la façon de ces Napolitains que nous voyons, jour et nuit, errant, des œuvres en plâtre dans les bras, à travers nos rues. Bon, charitable par religion et par nature, il dispensa autour de lui la fortune de sa bourse et les ressources inépuisables de son âme, consolant les malheureux, dotant les filles du peuple, comblant ses élèves, enrichissant son neveu, à qui il ne donnait pas moins de 3 à 4 000 écus à la fois. Ce neveu, Leonardo, qui, à 9 ans, perdit son père, fut surtout l'enfant gâté, le Benjamin de Michel-Ange. Leonardo, vis-à-vis de son tuteur, qui devint son véritable père, se permit impunément toutes les audaces de dissipation et d'égoïsme. Michel-Ange lui écrivait des lettres terribles, le menaçait, après chacune de ses incartades, de châtiment et d'abandon. Mais le gredin continuait toujours ses fredaines, sachant bien que son oncle avait besoin d'aimer. « Jamais, écrivait-il à Leonardo, je ne reçois une lettre de toi, que la fièvre ne me vienne avant que je puisse la lire. Où as-tu donc appris à écrire ? Sûrement, lorsque tu auras à écrire au plus grand âne du monde, tu t'appliqueras mieux que lorsque tu écris à ton oncle. J'ai jeté au feu ta dernière lettre, donc impossible de te répondre. » Une fois, Leonardo, s'imaginant que son oncle était à l'article de la mort, vient précipitamment à Rome. Mais, au lieu de se présenter chez lui, il flaire les biens de l'héritage et, sans discrétion, tente par intérêt quelques démarches. Michel-Ange apprend cette chasse sournoise de son neveu, dont il devine aussitôt les intentions. Et furieux, indigné, il lui crie dans une lettre « J'ai été malade et tu as couru chez Ser Giovan Francesco pour te rendre compte si je ne laissais rien. N'as-tu pas assez profité de mon argent à Florence ? Tu ne peux pas mentir à ta race de cupide. J'ai fait un testament, sache-le, et tu n'as plus rien à attendre de moi. Donc va au diable, ne m'écris plus, ne viens plus devant moi. » Leonardo ne s'émouvait pas du tout. Il savait que son oncle, après avoir épuisé dans la colère sa mauvaise humeur, lui rendrait fatalement une tendresse qui, d'abord à lui-même, était nécessaire. Ainsi, dans l'histoire de son mariage, qui fut une très grave affaire, il le laissa choisir des parties, discuter des conditions, sermonner tout à son aise. « Souviens-toi qu'entre l'homme et la femme, il doit toujours y avoir une différence d'âge de 10 ans. Souviens-toi que celle que tu choisiras doit être non seulement bonne, mais saine. De celle dont on m'a parlé, tu es libre de prendre l'une ou l'autre, pourvu qu'elle soit bien élevée et plutôt sans dot que pourvue d'une grosse dot, afin que tu vives en paix. J'entends que celui qui veut te donner une femme la donnera, non à ta fortune, mais à ta personne. » Il te faut uniquement considérer chez ta future la santé du corps et de l'âme, la qualité du sang et des mœurs, et, en outre, qui elle a pour parent. Tâche de découvrir une femme qui n'ait pas honte de faire la vaisselle, de s'occuper des choses du ménage. Quant à la beauté, comme tu n'es pas précisément le plus beau garçon de Florence, ne t'en inquiète pas. Il suffit que ta femme ne soit pas estropiée ou repoussante. » Pour un vieux célibataire, Michel-Ange ne raisonnait pas trop mal. Au fait, c'est peut-être à cause de son âge et des souffrances de son isolement qu'il pouvait, dans les choses de la vie pratique, montrer tant de prudence, d'expérience et de scrupules. Indépendant de par sa fortune et s'étant toujours occupé lui-même du bien-être de son intérieur, il savait, aussi bien que le plus humble des ouvriers, les conditions les plus propres à la félicité d'un ménage. L'éclat du faux luxe, ni même la vanité d'une opulence solide, ne l'éblouissait. les qualités qui lui paraissaient susceptibles de remplir et d'orner de joie et d'élégance le cadre d'une existence humaine, il est recherché non dans l'apparence, mais dans le fond des choses, dans la raison et le courage des âmes. Pour épandre ses conseils, pour imposer sa volonté dans les questions de famille, il ne mâchait pas plus ses mots que pour imposer à ses maîtres mêmes, dans l'accomplissement de ses ouvrages, les préférences de son génie. « Il faut, ajouta-t-il dans cette même lettre à Léonarde, que tu puisses commander à ta femme et que, au lieu de faire des embarras, elle n'aille pas tous les jours en noces et en festins, car là où on leur fait la cour, il est facile de débaucher les femmes, surtout quand elles n'ont pas d'enfants. » Et lui qui, dédaigné pour sa laideur, n'avait pas même joui de la possibilité de conserver son espèce, semblait n'avoir pas beaucoup éprouvé de préjugés sur la vertu des femmes, sur leur faculté de direction et d'examen. Somme toute, il avait l'air de les considérer comme des êtres inférieurs que l'homme, pour leur commune paix, doit protéger des innombrables tentations de la terre. Brusquement, Léonarde lui annonce son mariage avec Cassandro Ridolfi. L'oncle lui envoie tout de suite ses félicitations et, dans sa joie, il va jusqu'à plaisanter à la vue de ce couple radieux d'amour qui le rajeunit. Maintenant, tâche de durer, car le nombre des veuves est toujours plus grand que celui des veufs. Ce ne fut qu'un accès de gaieté. Michel-Ange n'estimait plus guère que le bonheur, comme un fruit sur l'arbre, au bon soleil, put mûrir dans la société humaine. Aussi, lorsque Vasari lui apprit que Leonardo venait d'avoir un fils qui perpétuerait le nom de Buonarroti, s'empressa-t-il de répondre « Giorgio, j'ai eu grand plaisir de votre message qui prouve que vous vous souvenez du vieillard que je suis. Vous avez donc assisté à la fête donnée pour la naissance d'un nouveau Buonarroti. Je vous remercie de tous les détails que vous me fournissez. » Mais j'avoue qu'une telle pompe me déplaît parce que l'homme ne doit pas rire lorsque tant de monde pleure. Pourquoi Leonardo a-t-il organisé, pour un enfant qui vient de naître, tant de réjouissances? On ne doit manifester une pareille allégresse que pour la mort de celui qui a bien vécu. L'homme qu'il aima le plus, ce fut le serviteur qui, depuis le siège de Florence, se dévouait à ses soins, Urbino. Un jour, il lui demandait « Si je mourais, que ferais-tu ? Je serais obligé de servir un autre maître. Ah, mon cher Urbino, je veux te donner de quoi être libre à jamais et t'empêcher de servir un autre maître après moi. » Et il lui donna 2000 écus. Pendant sa maladie, Michel-Ange ne quitta pas son chevet, même la nuit. En 1556, lorsqu'à Florence, Urbino mourut, loin du vieillard, celui-ci, apprenant la triste nouvelle, écrivit encore à Vasari « Messer Giorgio, la mort d'Urbino est pour moi une très grande faveur de Dieu, en même temps qu'un très cruel chagrin. Je dis que ce fut une faveur de Dieu, parce qu'Urbino, après avoir été le soutien de ma vie, m'a appris non seulement à mourir sans regret, mais à désirer la mort. Je l'ai gardé, toujours parfait de probité, pendant 26 ans. » Je l'avais enrichi, je le regardais comme le bâton de ma vieillesse. Il m'échappe en ne me laissant que l'espérance de le revoir dans le paradis. J'ai un gage de son bonheur dans la manière dont il est mort. Il ne s'affligeait qu'à la pensée de me laisser seul, accablé de maux, au milieu de ce monde méchant et perfide. À la vérité, la majeure partie de moi-même l'a déjà suivi, et tout ce qui me reste n'est plus que peines et misères. » Il écrivit également à Cornelia, la veuve d'Urbino. Je me doutais, sans m'en expliquer la raison, que tu étais fâché contre moi. Je crois deviner maintenant pourquoi tes bouderies. Lorsque tu m'envoyas les fromages, tu m'informas de ton intention de m'offrir des mouchoirs de poche. Afin que tu ne fisses pas pour moi tant de dépenses, je te priais de ne plus rien m'offrir, mais au contraire, de me demander quelque chose. Car tu sais très bien l'affection que je garde pour Urbino, quoi qu'il soit mort, et quel intérêt je prends aux affaires de sa famille. Quant à venir voir tes enfants, ou à faire venir ici le petit Michel-Ange, je dois t'exposer mes conditions d'existence. Je vis sans femme, dans un établissement peu confortable. L'enfant est encore trop jeune, il pourrait lui arriver des accidents qui m'affligeraient beaucoup. De plus, le duc de Florence me presse, depuis un mois, de m'en retourner auprès de lui. Je lui ai demandé le temps nécessaire au règlement de mes affaires ainsi qu'à l'organisation définitive de la fabrique de Saint-Pierre. Donc, je resterai ici jusqu'au printemps. À cette époque, j'irai m'établir à Florence pour toujours. Ce ne sera pas pour longtemps, car je suis vieux. Alors, je passerai chez toi. Si tu veux me confier Michel-Ange, je le prendrai à Florence, plus volontiers que les enfants de mon neveu, et je lui enseignerai tout ce que je sais et que son père désirait que je lui apprisse. Le cœur de Michel-Ange restait donc toujours jeune. On ne peut, même à des égaux, parler avec plus de tendresse délicate et généreuse. Vasari, de son côté, l'engageait à abandonner les constructions de Saint-Pierre et à venir le rejoindre à Florence. Michel-Ange lui répondit qu'il était arrivé à la fin de sa carrière et qu'il n'avait plus aucune idée qui ne fût empreinte de la mort. Quelquefois, pour se distraire un peu, Michel-Ange, qui avait, comme tous les taciturnes, des moments d'humeur bouffonne, s'en allait chez un simple d'esprit, le peintre Giuliano Bugiardini. Giuliano, par sa bonté naturelle, par sa façon de vivre, lui plaisait infiniment. Il n'avait guère d'autre défaut que celui d'aimer ses propres œuvres. Justement, Michel-Ange, que ses œuvres ne satisfaisaient jamais, estimait Giuliano heureux pour la facilité de son contentement. Une fois, Messer Ottaviano de Médicis avait prié Giuliano de lui faire un portrait du grand sculpteur. Giuliano se mit à l'œuvre. Après avoir tenu Michel-Ange dans une pause de 2 heures, il lui dit « Viens voir, lève-toi, l'essentiel de ta physionomie, je l'ai attrapé. » Michel-Ange, docile, se leva. Quand il vit le portrait, il se mit à rire. « Que diable as-tu fait? Tu m'as enfoui un œil dans la tempe. Regarde un peu. » Giuliano, à ces mots, fut déconcerté. Il regarda bien attentivement le portrait, puis son modèle, après quoi il répliqua « Je ne vois pas que tu aies raison. N'importe, recommence la pose, je corrigerai ça s'il y a lieu. » Michel-Ange, qui se doutait bien de ce qui allait survenir, se replaça en face de Giuliano. Giuliano, à diverses reprises, l'observa, le compara à sa peinture. Ensuite, vif et résolu, il se leva et dit « Ton œil est tel que je l'ai dessiné. La nature l'a fait ainsi. Je n'y puis rien. » « Bon, fit Michel-Ange en riant plus fort, c'est la nature qui a tort. Continue ton travail et ne ménage point la couleur. » De plus en plus, Michel-Ange vécut seul, ne parlant à personne, s'entourant d'animaux, de poules et de chats.